Alors, ça commence avec une citation de Timothy Keller que je vais lire. Il dit ceci: la plupart des gens passent leur vie à essayer de réaliser leurs rêves les plus chers. N'est-ce pas là le but de la vie, la poursuite du bonheur? Nous cherchons sans fin les moyens d'obtenir ce que nous désirons et nous sommes prêts à d'énormes sacrifices pour l'avoir. L'exaucement de nos vœux pourrait être la pire chose qui puisse nous arriver, mais cela ne nous vient pas à l'esprit. C'est assez fort. Et j'ai trouvé cette citation de Tim Keller assez en pleine adéquation avec notre texte du jour. Et on va parler des Israélites qui désirent une chose, qui désirent ardemment une chose, et une chose pour laquelle ils sont prêts à d'énormes sacrifices. Et je vous invite à lire avec moi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Samuel 8, et je vais lire, nous allons lire les versets 1 à 22. Je lis. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël et le second Abija. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi, afin que je ne règne pas sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements. Fais-leur connaître les droits du roi qui règnera sur eux. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, « Voici quels seront les droits du roi qui règnera sur vous. Il prendra vos fils et les mettra sur ses chars ou parmi ses cavaliers. Ou encore, ils devront courir devant son char. Il fera d'eux des chefs de milliers et des chefs de cinquantaines. Il les emploiera à labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'équipement de ses chars. Il prendra vos filles pour faire d'elles des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos champs et de vos vignes et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos esclaves et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes et se servira d'eux pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous serez vous-même ses esclaves. Alors vous crierez contre votre roi, celui que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera pas. » Le peuple refusa d'écouter Samuel. « Cela ne fait rien, dirent-ils. Il y aura quand même un roi sur nous, et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Samuel les répéta à l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Écoute-les et établis un roi sur eux. » Samuel dit aux hommes d'Israël que chacun retourne dans sa ville. Vous l'aurez compris, il est question ici d'un roi. Israël demande un roi. Et déjà dans le livre de la Genèse, Dieu annonçait des rois qui sortiront ou qui sortiraient de la descendance d'Abraham. On le voit dans le livre de la Genèse au chapitre 17, où Dieu fait cette promesse à Abraham. Et plus tard, dans le Deutéronome, aussi au chapitre 17, Dieu va poser les conditions d'une éventuelle monarchie en Israël. Dieu savait qu'une fois entré dans le pays promis, Israël allait demander un roi. Dans ce texte, le problème n'est donc pas le fait que le peuple d'Israël demande un roi. C'est plutôt la raison sous-jacente pour laquelle la requête a été formulée. Ils voulaient un roi selon leur cœur et ils l'ont clairement exprimé. Et nous allons voir un peu plus ce qu'allait être ce roi. Premièrement, le roi prendrait la place des juges. Les premiers juges étaient considérés comme des libérateurs. Ils étaient suscités par Dieu à chaque fois que le peuple subissait une oppression. Ils étaient des instruments de Dieu pour libérer son peuple. On pourrait parler de Gédéon, on pourrait parler de Jephté, on pourrait même parler de, pourrait aussi parler de Déborah. Et Déborah, par exemple, en plus des affaires militaires, elle s'occupait aussi des affaires judiciaires. Elle siégeait sous un palmier qui portait d'ailleurs son nom. Et les fils d'Israël venaient vers elle et pour faire arbitrer leurs litiges. Au début du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, les juges n'étaient plus des super-héros comme Samson qui faisait des choses extraordinaires. C'était plutôt des gens qui veillaient sur le droit et la justice. Et ce principe leur avait été donné dans le Deutéronome au chapitre 16. Ils ne devaient pas porter atteinte au droit. Ils ne devaient pas juger sur l'apparence. Ils ne devaient pas recevoir des présents. Ils devaient juger avec justice. Et ce texte nous dit que les fils de Samuel menaient une vie contraire à toutes ces prescriptions. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, ils acceptaient des cadeaux, ils tordaient le droit. Mais reste à savoir si Samuel lui-même était au courant de tout ce que ses enfants faisaient. Le texte nous dit qu'il les avait établis à Beersheba. Et Beersheba était une localité à l'extrémité sud du pays, très éloignée du centre. Et donc, c'est fort probable que Samuel ne fût pas tout de suite au courant. Mais l'attitude de ses fils, de ses juges, va donner l'occasion aux anciens d'Israël de formuler le désir de leur cœur. Si nous relisons les versets 4 et 5, « Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama. Et ils lui dirent, « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Et la formulation de cette requête nous révèle clairement que les Israélites avaient trouvé là un prétexte pour se conformer aux autres nations. Et le prétexte qui, par définition, est une raison apparente dont on se sert pour cacher le véritable motif d'un dessein, d'une action. Samuel était vieux. Ses fils ne marchaient pas sur ses traces. Tout ça, c'était vrai. Mais est-ce que c'était le véritable motif pour lequel Israël demandait un roi? Depuis leur libération d'Égypte, les Israélites s'étaient rendus compte en entrant à Canaan que les villes étaient gouvernées par des rois. Le livre de Josué nous présente au chapitre 12 une liste d'environ 30 rois battus par Josué et les Israélites au côté ouest du Jourdain. Et durant la période des juges, les Israélites ont été sous la domination de certains rois, comme le roi de Mésopotamie, auxquels ils ont été soumis pendant 8 ans. Il y a eu aussi Eglon, le roi de Moab, qui les a soumis pendant 18 ans. Et ces rois ont certainement marqué les esprits du peuple d'Israël. Mais si le peuple a été sous leur domination, c'est parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu. Et à plusieurs reprises, ils ont abandonné l'Éternel pour servir les dieux étrangers. Et là, dans un nouveau désir de se conformer aux autres, ils ont trouvé le prétexte pour mettre fin au règne des juges et obtenir aussi un roi humain. Et je me suis demandé comment est-ce que le conformisme et les prétextes nous guettent encore aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui, de plus en plus, appelle bien ce qui est mal et considère comme liberté des choses que nous considérons comme péché, que la Bible considère comme péché, des choses qui sont inadmissibles pour l'Église, pour les chrétiens. Le danger, c'est que nous nous laissions influencer pour accepter ou tolérer ces choses dans le souci de plaire au monde. Nous devons rester, l'Église doit rester ferme, les chrétiens doivent rester fermes et ne pas faire de compromis avec tout ce qui ne glorifie pas notre Dieu. Et d'ailleurs, la Bible nous dit, dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et on a aussi les prétextes qui sont un mal pour l'Église aussi. Quand j'étais à l'IBG, donc à l'Institut biblique, un jour j'ai demandé aux autres étudiants, il y en a qui venaient de la France, il y en a qui venaient de la Belgique, il y en a qui venaient de l'Allemagne, et j'ai demandé comme ça, j'ai dit, mais dans vos églises où vous étiez, quels sont les prétextes qui ressortent le plus? Alors ils m'en ont cité quelques-uns. Je pense que le premier qui était ressorti, c'est le « je n'ai pas le temps ». Et ensuite, il y avait « je n'ai pas envie de passer pour un radical ». Je n'ai pas envie d'être légaliste. Il ne faut pas s'intéresser qu'à la Bible. Donc imaginez des chrétiens qui commencent à argumenter comme ça. Et puis il y avait aussi le « il faut s'ouvrir ». Et etc. Plein de prétextes qu'on trouve encore aujourd'hui, qu'on entend, qui peuvent être des pièges, qui peuvent freiner notre relation avec Dieu. Mais il n'y a pas que les chrétiens qui ont souvent des prétextes. Quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu ont juste trouvé un prétexte ou des prétextes pour ne pas croire. Et l'un des classiques, c'est « si Dieu existe, pourquoi le mal ?» Et lorsqu'il y a un avion qui crache, comme ce qui s'est passé en Inde, récemment, on se dit, mais si Dieu existe, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un crash d'avion avec des centaines de personnes qui meurent? Mais on oublie toutes les minutes où il y a des avions qui atterrissent partout dans le monde et que tout se passe bien. Et là, on ne cite pas, lorsque ça se passe bien, on ne fait pas recours à Dieu, on ne fait pas référence à Dieu. Mais quand il y a un drame, on dit, voilà une preuve que Dieu n'existe pas. Et nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu existe. Et que la souffrance peut nous atteindre dans ce monde déchu. Mais nous sommes encouragés parce que nous savons que même dans les souffrances, notre Seigneur est avec nous. Et nous savons qu'il y aura une plus grande souffrance à venir. Quand Dieu va juger le monde. Et là, même si nous souffrons maintenant dans ce monde, nous serons consolés pour l'éternité. Et ceux qui ne croient pas vont entrer dans une souffrance terrible. Et ce matin encore, quand on priait ici, Benjamin, il priait, il disait, « Mais Seigneur, on te remet tout ce qu'on a rencontré cette semaine, auquel on a parlé de toi. » On te les remet parce qu'on a ce désir que plus de personnes encore soient sauvées. Parce que Dieu réserve un jour pour ceux qui ne croient pas. Israël avait trouvé un prétexte. Et le vrai motif était de se conformer. C'était le conformisme. Le roi qu'il désirait tant allait premièrement régner à la place des juges. Mais il n'allait pas seulement remplacer les juges, il allait aussi remplacer Dieu. Le roi allait remplacer, le roi prendrait la place des juges, ça c'est vrai. Et deuxièmement, le roi prendrait même la place de Dieu. Et depuis l'Égypte jusqu'à Canaan, Dieu a combattu pour son peuple. Et c'est grâce à lui qu'Israël a remporté toutes ses batailles. On peut repenser à la défaite du Pharaon en Égypte, la traversée de la mer Rouge, l'écroulement du mur de Jéricho, les exploits extraordinaires des juges. L'Éternel était à la tête de l'armée d'Israël. C'est lui qui en était le roi. Et maintenant, Israël demandait un roi, un autre roi. Et Dieu connaissait leur cœur. Et c'est lui qui explique à Samuel, dans les versets 7 à 8, « Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Afin que je ne règne plus sur eux, parce que Dieu était le roi, c'est lui qui régnait, et maintenant ils disent, on ne veut plus de toi. » Et Dieu va dire à Samuel, « Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. » Les Israélites ne voulaient plus du roi divin. Leur désir d'un roi humain était un prétexte pour tourner le dos à l'Éternel une fois de plus. Le roi divin semblait ne pas agir comme il le voulait. Ils voulaient un roi selon leur cœur, un roi qu'ils pourront peut-être influencer. Et Dieu explique que c'est parce que le peuple veut renouer avec ses idoles, avec son péché. Et lorsqu'on a envie de faire le mal, c'est sûr que la présence de Dieu dérange. On veut un Dieu qui ne connaît pas tout, un Dieu qui ne voit pas tout, un Dieu qui nous laisse vivre comme nous voulons. Et de temps à autre, on lui donne un sacrifice. Mais un tel Dieu n'est pas le véritable Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas être adulé. C'est un Dieu qui hait le péché, il sait tout, il doit être à la première place, comme nous l'avons chanté. Un de mes professeurs me disait, ou nous disait, qu'une femme dans son église lui a dit un jour, « Je veux bien que Jésus soit mon sauveur, mais je ne veux pas qu'il soit mon Seigneur. » Elle veut diriger sa vie comme elle veut. Jésus n'est pas à la première place. Mais on veut bien son salut, mais on ne le veut pas comme Seigneur. Comme Israël à cette époque, notre société veut mettre Dieu sur le côté, sur le banc de touche. L'homme veut être son propre roi. J'ai écouté encore une vidéo, on avait un micro-trottoir, on demandait à quelqu'un, mais est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, non, c'est moi Dieu. L'homme veut être son propre Dieu et mener sa vie comme bon lui semble. Et autour de nous, Dieu est devenu le sujet qui dérange, celui qui gêne. Même les chrétiens sont de moins en moins enthousiastes quand il s'agit de révéler leur foi. On se dit que les gens auront des préjugés sur nous. Nous sommes de moins en moins à l'aise quand il s'agit de prendre notre Bible dans un espace, dans un lieu public. On pense qu'on va choquer les gens. Le monde nous pousse à cacher notre foi, à cacher notre Dieu, à le remplacer par autre chose. Mais le cœur de l'homme ne peut pas être vide. Il n'est jamais vide. Il y a forcément un roi qui y règne. Soit c'est le roi divin qui y apporte grâce, paix, consolation et vie éternelle. Et quand lui n'est pas là, c'est que nous avons à la place le roi idole qui est conduit par Satan. Et lui, il va apporter des joies de ce monde, certes, mais la finalité, c'est la perdition. Israël avait malheureusement choisi le roi idole, mais Dieu allait quand même les prévenir des dangers qu'ils encourent. Le roi prendrait la place des juges, le roi prendrait la place de Dieu, le roi s'en prendrait à son propre peuple. Face à un peuple qui s'entête à rejeter son sauveur, Dieu, dans sa compassion et dans son omniscience, va alerter Israël des conséquences que cela pourrait engendrer. Dieu leur met en garde par Samuel. Votre roi aura des droits sur vous à tel point que vous éleverez des cris, mais en ce moment, je ne vous répondrai pas. Et quand on lit le texte, on voit que le futur roi allait effectivement être un véritable ravisseur. Il allait prendre les fils de son peuple pour son armée, pour cultiver des terres. Il allait prendre les filles, il allait prendre les meilleures parties des champs, des vignes, des oliviers. Il allait prendre le bétail, les esclaves, les servantes, la dîme. Et même son peuple allait devenir son esclave. Et c'est là qu'il y aurait du regret. Et l'Éternel ne va plus répondre. Et ses mises en garde auraient dû refroidir l'enthousiasme du peuple à vouloir un roi humain au détriment de Dieu. Et nous voyons là la bonté de Dieu. Dieu qui met en garde, Dieu qui nous alerte des dangers qui nous guettent lorsque même nous prévoyons de nous éloigner de lui. Et quelle a été la réponse des Israélites ? Cela ne fait rien. Cela ne fait rien. Il y aura quand même un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons pareils à toutes les nations. Notre roi nous jugera. On voit ici, ils éjectent les juges. Notre roi nous jugera. Il marchera à notre tête. Ils éjectent Dieu parce que c'est Dieu qui marchait à leur tête. Et le paradoxe, c'est que le roi tel que cité, tel que décrit, allait être pire que les fils de Samuel. Mais Israël répond, cela ne fait rien. Le plus important pour eux, c'est d'avoir leur roi et d'être comme les autres. Cela ne fait rien s'il prend nos fils, ça ne fait rien s'il prend nos filles, s'il prend nos champs, notre bétail, ça ne fait rien. Le pire, c'est qu'ils vont me dire, ça ne fait rien, même si Dieu ne nous répond plus. Comment on peut expliquer un tel désir, sinon le rejet tout simplement de Dieu? Et aujourd'hui encore, le monde va choisir premièrement son idole, au détriment de Dieu. Mais le chrétien choisit Dieu et le salue en Jésus-Christ. Et il va s'appuyer sur lui pour traverser les aléas de la vie. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne profite pas de la vie. Quand j'étais à Genève, pendant mes années de stage, on avait un stand d'évangélisation sur la rue du Mollard. On avait de la littérature qu'on avait mis à disposition. Et je me rappelle, un homme, un matin, il était venu, il s'était avancé, j'étais arrêté juste à côté. Quand il a vu que c'était des livres chrétiens, il m'a dit, je ne crois pas en Dieu, je veux être heureux. Et comme si Dieu ne souhaitait pas que nous soyons heureux. Et le paradoxe, quand j'ai regardé cet homme, je n'ai pas vu le bonheur. Parce que le véritable bonheur, c'est lorsque nous obtenons le pardon de nos péchés. En Jésus-Christ, comme le dit le texte, ce verset de Romains 4. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. C'est là le véritable bonheur. Dieu ne nous prive pas du bonheur, bien au contraire. Les Israélites auraient vécu dans le bonheur pour toujours s'ils avaient fait de Dieu leur priorité en marchant dans ses voies. Mais nous devons aussi nous souvenir que le malheur dans ce monde atteint aussi le juste et qu'il atteint même souvent. Mais si nous restons attachés à l'Éternel, c'est sûr qu'il est avec nous pour traverser les épreuves. Et j'aimerais conclure pour dire que bien que Dieu eût posé les bases d'une future monarchie en Israël, le peuple s'apprêtait à entrer dans ce projet de la pire manière possible. Le rejet du roi divin au profit du roi humain. Preuve que les projets que Dieu lui-même a préparés pour nous peuvent tourner à notre malheur si nous ne mettons pas Dieu au centre. Les Israélites avaient trouvé un autre roi pour remplacer le roi divin. Et cet autre roi n'était autre qu'une idole qu'ils portaient dans leur cœur. Et Timothy Keller, dans son livre intitulé « Les idoles du cœur », va définir une idole telle que suit. Il dit que c'est la chose que nous contemplons en nous disant au fond de notre cœur, si seulement je l'avais, alors ma vie aurait un sens. Je saurais que je vaux quelque chose et je me sentirais important et en sécurité. En fait, c'est la chose qui remplace Dieu dans notre cœur. C'est la chose sur laquelle nous fondons tout notre espoir. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire d'un texte comme celui-ci? Premièrement, nous pouvons nous examiner et nous poser la question, est-ce que Jésus me suffit? Est-ce que Jésus seul me suffit? Parce qu'en tant que chrétien, Jésus devrait être notre seul et unique roi, comme nous l'avons chanté. Nous pouvons nous examiner pour voir est-ce qu'il n'y a pas un autre roi qui commence à s'immiscer tout doucement dans notre cœur. Et est-ce que nous ne sommes pas déjà en train de remuer ciel et terre pour l'obtenir? Rappelons-nous que l'exaucement de nos vœux pourrait être la pire chose qui puisse nous arriver si Dieu n'est pas le centre. Parce que rien ne devrait prendre l'adoration que nous sommes censés lui rendre. Nous pouvons nous examiner. Nous pouvons prier pour que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie. Tout lui abandonner. Ne jamais nous détourner de lui. Parce que c'est en lui qu'il y a le véritable bonheur. Même dans l'épreuve. Et nous pouvons prier pour la Suisse pour terminer. J'ai vu cet article de la RTS, c'était le 22 juillet. C'était intitulé « Combien de temps encore l'Église restera-t-elle au milieu du village en Suisse ?» Avec la baisse du nombre de fidèles, le mauvais état des bâtiments et la pression immobilière, plusieurs églises ont été démolies pour laisser place à des logements ces dernières années. Les églises sont démolies au profit des logements. On pourrait se dire, non, mais c'est l'église catholique ou bien c'est l'église protestante, etc. Mais en fait, ça nous montre tout simplement que les gens ne vont plus à l'église, que Dieu est oublié, que l'église se vide et que de façon générale, les gens ne croient plus, ils ne veulent plus s'intéresser à Dieu. Dieu est en train d'être remplacé par autre chose. Ce n'est pas la Suisse, je ne connais pas toute l'histoire de la Suisse, mais je sais que ce n'est pas la Suisse d'il y a 100 ans, ce n'est pas la Suisse d'il y a 50 ans. Quand on écoute même l'hymne national de la Suisse, on sent qu'il y avait une Suisse avant, et la Suisse d'aujourd'hui est bien différente. Et même dans nos églises évangéliques, combien sommes-nous vraiment le dimanche matin? Combien d'églises n'ont même pas d'enfants pour l'école du dimanche? Je tourne dans les églises, je vois les choses. Il n'y a plus d'enfants dans les églises, il n'y a plus de jeunes. Dieu a été remplacé tout simplement par quelqu'un d'autre. Et le cœur de l'homme n'est jamais vide. Soit c'est Dieu qui règne, soit c'est l'idole qui règne. Alors, le titre que je propose aujourd'hui, c'est que Jésus seul soit vraiment notre roi. Et je vais encore prier. Oui, Dieu Père, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle est la vie. Et toutes ces choses ont été écrites pour nous servir de témoignage, pour que nous apprenions à mieux te connaître, surtout à mieux marcher avec toi. Que nous puissions nous rendre compte à quel point, Seigneur, il est dangereux de s'éloigner de toi. Aussi, combien tu nous aimes et que tu nous alertes quand les idoles veulent prendre ta place. Seigneur, je te prie pour chacun de nous ce matin que tu nous gardes. Que tu nous gardes près de toi. Que nous puissions vivre une vie centrée sur toi. Que tu puisses vraiment être notre Dieu et notre Seigneur. Que tu règnes dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous puissions refléter ton royaume autour de nous. Que nous puissions refléter ton amour. Tu vois la Suisse, Seigneur. Et pas seulement, tu vois l'Europe, tu vois le monde. Seigneur, que des gens se tournent à nouveau vers toi. Seigneur, qu'il y ait des réveils dans les pays. Seigneur, merci pour tous ceux qui t'annoncent, qui annoncent ton royaume. Merci pour ton église qui rayonne. Et je prie particulièrement pour l'église de l'Espérance ce matin. Merci pour son témoignage dans ce quartier. Combien de fois on a fait des activités ici, en plein air, dehors, pour que les voisins puissent voir. Combien de fois on a invité des gens. Combien de fois ils continuent, Seigneur, à montrer ton royaume. Bénis-les, Seigneur. Merci d'encourager chaque personne ici ce matin. Merci de continuer à nous parler, Seigneur, tout au long de la semaine. Merci pour ta paix, ta fidélité, ton amour pour chacun de tes enfants. Merci parce que tu es le Dieu qui encourage, le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui nous rappelle que tu es là. Et que toute la gloire soit à toi, en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.